soir, le 25 mai 2013, l'Union africaine a commémoré 50 ans d'existence. Le thème retenu pour cette année est panafricanisme et renaissance africaine. Un sommet a été organisé à cette occasion à Addis Abeba. Parmi les recommandations, les États membres décident notamment de créer une force africaine de réaction rapide. Sa mission serait d'intervenir militairement en cas d'urgence sur le continent africain. Cinquante ans après, quel bilan dresser de l'action de l'Union africaine en termes de perspective? Que faut-il améliorer? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce soir. Trois invités participent à cette émission. Professeur Banyaku Luape, professeur au département des relations internationales de l'Université de Kinshasa. Il est coordonnateur national adjoint de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL. Professeur Banyaku, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Nyabirungu Mwenesonga, professeur ordinaire et doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Professeur Nyabirungu, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Komi Toulabor, directeur de recherche au centre de recherche dénommé Les Afriques dans le monde à Bordeaux en France. Il travaille sur les problèmes électoraux. Professeur Komi Toulabor, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Les États africains ont commémoré le 50e anniversaire de l'Union africaine sous le thème « Panafricanisme et renaissance africaine ». L'Union africaine a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine, créée le 25 mai 1963. Il y a 50 ans, l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie avait réussi à rassembler les dirigeants africains de l'époque qui tous ne partageaient pas la vision du président ghanéen Kwame Nkrumah, le père fondateur du panafricanisme. Que retenir de cette organisation panafricaine 50 ans après, Michel Kifindangoy?
À sa création, l'Organisation de l'Unité africaine, OIA, s'est engagée à promouvoir l'unité et la solidarité entre les États africains en vue d'un avenir politique et économique durable. Ayant fait de la non-ingérence un principe fondateur, l'OIA est souvent apparue comme un organe sans réel pouvoir, un club de chefs d'État en majorité autocrate. Pour faire oublier ses passés peu glorieux, l'Union africaine lui a succédé en 2002 et se dote d'institutions comme le Conseil de paix et de sécurité, et des mécanismes plus ambitieux consacrant notamment un droit d'ingérence. 50 ans plus tard, les 54 États membres de l'Union africaine peinent toujours à faire de l'Afrique un continent uni. Mais l'Union africaine a suspendu et sanctionné depuis sa création plusieurs de ses membres, théâtre de coups d'État. Selon les analystes, le succès de l'Union africaine est principalement entravé par des problèmes financiers et des profondes divisions en son sein.
Merci Michel Kifindangoy, professeur Banyaku Luape. Je rappelle que vous êtes professeur au département des relations internationales de l'Université de Kinshasa. Vous êtes coordonnateur national adjoint de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL. Professeur, 50 ans après, quel est le bilan que vous vous dressez de l'action de l'Union africaine? Nous commençons par le bilan et dans la deuxième partie, nous aborderons les perspectives. Professeur.
Je vous remercie. Je pense que le bilan... il ne faut pas toujours parler de bilan positif, puisqu'il y a une moyenne qui est un bilan moyen, dans le sens que les États africains ont quand même gardé leur unité, leur cohésion, même si elle est moyenne, mais bien significative au niveau international, et que je note, il n'y a aucun État depuis la création qui a quitté l'Union africaine ou l'OIA dans son temps.
À part le Maroc à un certain moment.
À part le Maroc, pour les raisons que nous connaissons, oui, pour le problème sahraoui qui était récupéré, peut-être même géré autrement au niveau de Nations Unies. Mais qu'aussi, il faut noter, au niveau de l'évolution le leadership africain s'est imposé dans certains forums, surtout particulièrement au niveau de Nations Unies, où on cherche un peu à, dans les structures qui sont en train d'être modifiées, éventuellement avoir une petite place dans la structure de Conseil de sécurité. Et je pense que c'est devenant aussi bien, il faut l'avouer, que l'évolution des organisations régionales, que ce soit du sud ou du nord ou surtout de l'ouest, il faut dire qu'il y a quand même un fond de stimulation et d'encouragement qui peut dire que nous sommes dans un bilan mitigé mais réel.
Mais professeur, qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes, et on le verra d'ailleurs, beaucoup d'auditeurs sont revenus là-dessus, qui pensent que le bilan est carrément négatif et que l'Union africaine, l'OUA, est passée à côté de sa mission?
Non, je me dis que pour en ce qui concerne l'Union africaine, il faut bien le dire, les États africains de manière générale, nous sommes, et c'est le débat que j'ouvre toujours, nous sommes dans une vision qui est en face d'un glacis, géostratégique, où on empêche toutes les intelligences positives à contribuer, à réaliser du vrai, puisque vous savez que pratiquement tous les dirigeants nationalistes qui avaient une vision, ne fût-ce qu'au niveau de l'indépendance de l'Afrique, ont connu un sort tout à fait malheureux. Et vous ne pouvez pas demander une chose au même moment où vous liquidez ceux qui ont une vision, de demander d'autres en avoir une alors qu'ils sont sous les pièges de liquidation face à ces glacis, c'est-à-dire à ces vides qu'on veut créer pour la présence africaine dans l'arène internationale.
Professeur, vous dites que à travers l'Union africaine, à travers le bilan moyen que vous dressez, le leadership africain s'est imposé dans certains forums, mais cela n'est-il pas opposé à cette vision de certains analystes qui voient plutôt l'Union africaine qui la présente comme un syndicat des chefs d'État?
Bien, à la création, l'idée c'était le chef d'État par rapport, non seulement on voyait pas le peuple, mais par rapport à l'extérieur. Je pense que c'est un détail qu'on ne peut pas oublier. Et à ce point, ce n'était pas facile de considérer que les chefs d'État luttaient d'abord contre leur propre peuple. Ils luttaient pour l'unité, pour une certaine dynamique africaine. Et là, je pense que ce n'est pas nul. Et de deux, je peux avouer que les leaders africains ont de plus en plus connu une certaine conscience, et surtout avec toute la dynamique et le processus de démocratisation, ainsi que l'amélioration, la volonté d'améliorer les conditions et de se brancher sur un développement transformatif. Donc c'est déjà positif.
Robert Kabandani de Bukavu Sud qui vous dit le 50e anniversaire de l'Union africaine constitue un échec parce qu'elle n'a pas pu instaurer en Afrique la démocratie à l'européenne, n'a pas pu mettre fin à la pauvreté en Afrique, n'a pas pu mettre fin à la corruption, n'a pas favorisé la tenue des élections libres et transparentes en Afrique, n'a pas pu mettre fin aux interminables guerres qui secouent les Grands Lacs et le reste de l'Afrique, et n'a pas pu mettre fin aux différentes dictatures. Professeur, on se souvient quand même de la, je dirais entre guillemets, mauvaise gestion de l'Union africaine en ce qui concerne les différents conflits à travers l'Afrique, des hésitations au Mali et voire même en Afrique centrale.
Ouais, moi, je suis dans l'approche réaliste où je me dis, il faut voir les choses dans la perspective d'une constitution. Donc, je suis dans l'approche constructiviste. Si vous voulez construire quelque chose, le fondement, ce n'est pas à penser que dès que vous posez le fondement, tous les bâtiments sont construits. Je suis vraiment dans cette perspective où je comprends que 50 ans, c'est peut-être pas beaucoup. C'est un demi-siècle où il y a des problèmes de démocratie qui se posent, mais notre interlocuteur tout à l'heure, l'intervenant tout à l'heure a parlé de la démocratie à l'européenne. Je pense que c'est difficile à atteindre. Et en ce qui concerne les élections, le mécanisme électoraux sont difficiles en Afrique, et ce n'est pas puisque les Africains ne veulent pas de la démocratie ou les chefs d'État, mais déjà la pensée même électorale suppose des critères sérieux. Les modes de scrutin Et ça, on n'a pas encore développé l'intelligence suffisante pour arriver vraiment à un mode de scrutin. Et pour la dictature, avouons qu'elles sont en train de disparaître, sous une forme ou une autre, mais elles sont en train de disparaître.
Alors très brièvement, professeur, avant que je ne donne la parole au professeur Nyabirungu, quand vous parlez d'une approche constructiviste, voilà, j'y arrive, faudrait-il laisser le temps, suffisamment de temps à l'Union africaine pour qu'elle devienne aujourd'hui comme l'Union européenne?
Le temps, c'est pas toujours par rapport à l'espace. Le temps ne se mesure pas. Le temps, c'est par rapport à l'espace. Le temps, c'est par rapport à la qualité de l'action que vous menez. Et je pense que l'Afrique, c'est un espace, comme vous le savez, qui était vraiment totalement sous domination coloniale, qui n'a pas développé toute l'évolution des souverainetés comme on en a connu en Europe depuis le pacte des traités de Westphalie de 1648. Vous voyez bien que nous sommes dans 4 siècles de construction de l'État souverain et donc on ne pouvait pas s'y attendre. Mais je pense que ce n'est pas une excuse pour dire que nous ne devons pas multiplier les efforts pour que nous soyons vraiment au diapason des autres démocraties et des autres.
Professeur Nyabirungu Mwenesonga, vous êtes professeur ordinaire et doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Professeur, l'OUA est créée en 1963, au moment où plusieurs pays africains deviennent indépendants. Finalement, cette organisation n'aura-t-elle pas été victime d'un panafricanisme aveugle?
Merci pour votre question. Comme vous l'avez remarqué, dans les qualités que vous m'attribuez, aucune ne me désigne comme spécialiste des questions africaines. Cependant, si j'ai accepté d'intervenir, c'est précisément parce que les citoyens africains devraient être entendus. Aujourd'hui, si vous demandez aux Congolais qu'est-ce que c'est l'OUA, qu'est-ce que c'est l'Union africaine, je crois que 90% de notre population ne pourra jamais répondre à ce genre de questions. C'est pour dire que l'OUA, l'Union africaine, sont des concepts bien manipulés par les intellectuels, mais qui intéressent très peu les peuples. Ce n'est pas, je crois, un reproche. Comme le dit notre collègue Banyakuka, il parle de l'approche constructiviste. Je pense que dans tout effort humain pour essayer d'améliorer les choses, il y a un commencement. Et nous devons reconnaître ce mérite au père fondateur de l'organisation de l'unité africaine qui se sont rendu compte que l'Afrique était un continent, certainement divisé par les forces coloniales étrangères, mais un continent qui pouvait se rassembler. Ils ont posé des principes idéologiques de première importance. L'unité, le combat contre la décolonisation, le combat contre l'exploitation économique par l'étranger. Ils ont développé une lutte concrète contre les pays qui étaient encore sous colonisation. Les pays comme l'Angola, comme le Mozambique, sont certainement éternellement reconnaissants vis-à-vis des pères fondateurs. De même, la lutte que l'Afrique de l'OUA a engagée contre l'apartheid est une lutte concrète. Je me souviens personnellement d'avoir dit à un serveur dans un restaurant de Johannesburg que j'étais congolais. Il m'a servi avec beaucoup de reconnaissance en disant « Oui, le Congo, il nous a aidés à nous libérer de l'apartheid. » Donc, il y a ce constat que les pères fondateurs ont tenté de commencer quelque chose de très important et ils n'avaient pas le choix.
Mais visiblement, ça n'a pas eu donné l'air d'évoluer après les élans indépendantistes, professeur.
Non, ne perdez pas de vue que, par exemple, l'Union africaine a compris qu'il fallait aller à l'intégration économique avec le plan de Lagos. N'oubliez pas que c'est l'organisation de l'unité africaine qui a décidé un ancrage vers l'économie avec le NEPAD pour le développement, pour les infrastructures, qui a inséré l'Afrique dans les objectifs du millénaire. Et c'est là où effectivement l'Afrique devrait, disons, l'Union africaine devrait être plus audible, entrer dans des objectifs précis. la vision de l'Afrique quant à l'école, la vision de l'Afrique quant à la santé des populations. Il nous faut des gens instruits. Il nous faut des adultes, des enfants, des femmes en bonne santé pour donner leur contribution au développement général du continent. Il y a quelque chose qui s'est fait, mais c'est encore très peu.
Et donc, à ce stade, professeur, quel est finalement votre bilan? Vous venez d'énumérer une série d'éléments positifs. Le bilan pour vous, il est mitigé, il est négatif. Comment faut-il le considérer?
Je peux adhérer à l'analyse de mon collègue Banyaku et dire que c'est un bilan moyen. Effectivement, il était nécessaire que tout cela soit dit. Il était nécessaire que l'idéologie soit formulée. Il était nécessaire qu'on définisse de nouveaux objectifs. Mais, il faut que l'Union africaine soit l'affaire des citoyens africains et pas l'affaire des chefs d'État qui font les bilans en fonction du nombre de sommets qu'ils tiennent et non en fonction, par exemple, de victoires remportées contre le sida, des victoires remportées contre les ingérences étrangères, des victoires remportées contre ceux qui exploitent nos ressources naturelles.
Alors, professeur, qu'est-ce que vous répondez? C'est pratiquement la même question que j'ai posée tout à l'heure au professeur Banyaku. L'Union africaine a été hésitante sur certaines crises profondes qui ont déchiré certains États. J'ai parlé tout à l'heure du Mali, de l'Afrique centrale, pour ne pas citer cette partie de l'Afrique. On a senti l'Union africaine avoir les pas lourds. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces critiques?
Mais c'est dans l'ordre naturel des choses. Il ne suffit pas de formuler des idéologies. Il faut se donner des moyens d'action. Et les moyens, il faut les chercher là où ils sont. Je prétends que l'Afrique a des moyens pour peser sur les conditions de vie de ses populations. Prenons un petit exemple. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui venez de citer le Mali. Le Mali a été désintégré par les djihadistes depuis plus d'une année. Et pendant pratiquement 10 mois, aucune organisation africaine ne parvenait à prendre une quelconque initiative. La France est venue. La France vilipendait constamment comme ancienne puissance coloniale, comme une puissance néocoloniale. La France de la France-Afrique. Elle a pratiquement mis fin aux aventures djihadistes en quelques 3 mois. Pendant ce temps, la CEDEAO tergiversait toujours. Comment voulez-vous que d'un côté, nous condamnions les anciennes puissances coloniales et en même temps, nous ne comptions que sur elles lorsqu'il s'agit de crises majeures? Et pourtant, ça c'est important pour la réponse à votre question. J'ai dit que les moyens existent. Regardez en Somalie, ce sont des forces africaines qui interviennent avec à la pointe les armées kenyanes et éthiopiennes.
Même au Mali, il faut citer l'armée tchadienne qui est intervenue également.
Regardez au Mali que la porte du Tchad a été considérée comme déterminante. Donc les moyens existent.
Merci professeur. Professeur Komi, tout d'abord, est-ce que vous nous suivez?
Oui, je vous suis, mais parfois difficilement parce que je n'entends pas très très bien. Et il y a des coupures intermittentes, bon, mais en gros, ça va aller.
Voilà, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au centre de recherche dénommé Les Afriques dans le monde à Bordeaux en France. Vous travaillez sur les problèmes électoraux. Professeur, pour vous, 50 ans après, quel bilan vous dressez de l'action de l'Union africaine? Vous avez suivi vos collègues ici au plateau, ici au studio, qui parlent d'un bilan moyen.
Oui, et malheureusement ou heureusement, j'aborderai dans leur sens. Moi, je dirais que je suis né au moment où je grandissais, l'OIA se créait. À l'époque, j'avais quel âge? J'avais dans les 10 ans, quelque chose de ce genre. Et j'ai suivi un peu l'évolution de l'OIA. Et ce que je constate, c'est que, bon, quand on parle de bilan, moi, je m'arrêterai sur deux choses. Deux choses, tout d'abord, au plan positif, c'est que, bon, l'OIA a été créé fondamentalement pour aider à la décolonisation des pays, des colonies, des pays africains qui n'étaient pas déjà indépendants. Et donc, au mois de mai 1963, le bilan, c'est de savoir quels sont les pays qui restaient à être à décoloniser. Bon, quand on regarde à ce niveau, on se rend compte qu'il y a une quinzaine de pays qui ont suivi la création de l'Union africaine. Bon, il y a 15 pays qui seront décolonisés dans la foulée. Et ça, à ce niveau, on peut dire que le bilan de l'Union africaine est positif dans la mesure où quelque part a atteint son objectif. Mais en même temps, je vais relativiser, dans la mesure où ces colonies étaient dans la dynamique de décolonisation déjà, on peut se poser la question de savoir quel a été l'effort et l'efficacité de l'Union africaine ou de l'OIA à l'époque pour aider à cette décolonisation-là. Il ne faut pas oublier qu'il a fallu beaucoup de luttes, surtout au niveau du dernier pays, si on prend le cas du Zimbabwe, à décoloniser. Et là, bon, je me rappelle très très bien, surtout, moi j'étais déjà en France, les mobilisations qu'il y a eu pour pousser, là, le Zimbabwe, à l'époque sud-ouest africain, je crois, c'est ça le nom ancien qui est devenu Namibie, Zimbabwe après, pardon. Écoute, ça a été vraiment une lutte. Et de même, on peut parler de l'Afrique du Sud elle-même, qui est devenue le pays moteur du continent. Et encore que, bon, on peut se poser la question de savoir si les pays africains ont réellement agi. Parce que, bon, moi, je me rappelle, il me semble que certains pays africains soutenaient beaucoup plus la position de la France, des pays occidentaux en général, à savoir si l'ANC accédait au pouvoir, ça serait la catastrophe. Surtout les pays francophones étaient dans la mouvance de la France à cette époque-là. Et les pays anglophones, plus ou moins, selon, etc., et l'idéologie des dirigeants. Bon, donc il y a quelque chose qui s'est passé là et qu'on peut mettre au crédit de l'Union africaine. Deuxième élément que je mettrai, c'est que, bon, et ça aussi je vais relativiser, c'est que l'Union africaine, l'OIA, est un gros producteur de chartes, de tests. Et là, bon, quand vous prenez là, depuis son origine jusqu'à maintenant, ben, il n'y a que des chartes de droits du peuple et de, je sais pas, etc., droits de l'homme, etc., etc., et chartes pour une élection libre, démocratique, etc. Vous en avez plein sur la femme, sur les enfants, l'éducation. Vous avez plein de tests comme ça qui n'ont jamais été appliqués. Et ça, bon, les tests sont là. Peut-être on peut dire que, bon, ça pose les bases intellectuelles et idéologiques, mais en même temps, à partir du moment où l'action ne vient pas incarner cette idéologie, on peut dire que, bon, l'OIA est quelque part en situation d'échec. Échec, si vous permettez, je ne sais pas s'il faut aborder ça maintenant.
Professeur, votre collègue, le professeur Nyabirungu, disait tout à l'heure que l'Union africaine ne se donnait pas les moyens d'action, alors que les moyens sont là, professeur. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Tout à fait. Les moyens, les moyens pour moi, c'est surtout les moyens financiers, les moyens intellectuels. Intellectuellement, je pense que l'Afrique a des élites pour se prendre en charge, mais au niveau financier aussi. Mais en même temps, bon, ce qu'on observe, c'est que l'Union africaine, on peut prendre par exemple des faits concrets, à savoir que, bon, l'Union africaine est financée à 95% de l'extérieur. Alors que, bon, nos pays ont quand même, me semble-t-il, la capacité de financer cette organisation. Et quand on prend les pays africains qui financent, qui participent financièrement au budget de l'Union continentale, il n'y a que cinq pays. Il y a l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria, et surtout la Libye qui est le gros financeur, le gros bailleur. Et les autres, bon, ont des dettes, des créances vis-à-vis de l'Union africaine. Et c'est l'Union européenne qui vient financer le budget. Ah, vous vous rendez compte ce que ça signifie? Ça signifie que, ben, celui qui vous donne de l'argent, ben, a quelque part le droit de vous imposer ses vues. Et c'est ce qui se passe. L'Union africaine n'est pour moi que le reflet du fonctionnement de la gouvernance des pays particuliers qui la composent.
Merci.
Quelque part. C'est le miroir.
Merci, professeur Komi Toulabor. 50 ans depuis la création de l'Union africaine, en tout cas quelques étudiants des universités congolaises ont dressé un bilan mitigé des actions de cette organisation panafricaine. Il s'exprime au micro de Michel Kifindangoy.
Si on doit parler de l'Union africaine, nous ne sentons pas vraiment l'impact de cette organisation dans les divers problèmes qui arrivent à notre continent.
50 ans après l'existence de l'Union africaine, par rapport à notre pays, le bilan n'est pas positif. Pourquoi ? Parce que l'Union africaine est presque absente dans notre pays. On a des problèmes, l'apport de l'Union africaine est presque absent.
De mon avis, c'est un bilan négatif dans ce sens où l'organisation de l'Union africaine a visé plus l'intégration. D'où, jusqu'à aujourd'hui, l'organisation n'arrive pas à peser ou à atteindre ses objectifs fixes. C'est d'éradiquer les conflits que nous sommes en train de vivre dans des régions et pouvoir favoriser la paix en Afrique.
Je n'ai pas vraiment réalisé l'impact de l'Union africaine par rapport à l'Union européenne. Pour moi, c'est vraiment 50 ans au niveau théorique.
Jusqu'à maintenant, l'Union africaine n'est pas capable de trouver la solution dans tout ce qui se passe en Afrique. Et les présidents africains ne sont pas unis et ne parlent pas le même langage. Les cas comme de Libye. Ce n'est pas l'OTAN qui peut aller intervenir au Libye. C'est pour vous dire que l'Union africaine n'a pas de moyens.
Bilan mitigé, positif, négatif. Professeur Banyaku, revenons sur cette question des moyens. Le professeur Komi Toulabor parlait des moyens financiers, des moyens intellectuels. Il y a Edem Kodjo, secrétaire général de l'OUA de 78 à 83, cet ancien premier ministre du Togo. En ce qui concerne les moyens, il a déclaré sur RFI, je cite, « Si les chefs d'État africains ne cotisent pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. Souvent, il y a des chefs d'État qui arrivent au sommet de l'Union africaine et qui ne savent même pas qu'ils ont des cotisations en retard. Parfois, l'administration nationale a omis d'ordonnancer ces dépenses. Professeur, à ce niveau-là, les chefs d'État africains, finalement, comprennent-ils l'importance de l'Union africaine? Comment peuvent-ils fonctionner sans moyens? Brièvement, avant que l'on aborde la deuxième partie.
Non, je voudrais ici insister sur le fait que le moyen financier et les moyens intellectuels, il ne faut pas les séparer. La gouvernance, ce n'est pas l'argent. La gouvernance, c'est l'intelligence de gérer l'argent. L'intelligence de réaliser avec l'argent qui est à votre disposition. Donc, je pense que la carence ici, ce n'est pas tellement le fait que ça soit les autres qui cotisent, que ça soit nous-mêmes qui soient pas capables. Je pense qu'il y a une conscience qui est en train de se développer et cette conscience a sa carence actuel au niveau intellectuel, ce n'est pas encore au niveau financier, au niveau de la gestion. Et la gestion, c'est une conscience. C'est d'abord une conscience de bien faire les choses et une conscience de bien réaliser.
Voilà, nous allons directement aborder notre deuxième partie de cette émission en termes de perspective. Que faut-il améliorer au niveau de l'Union africaine à l'issue du 21e sommet de cette organisation à Addis Abeba en Éthiopie? De grandes résolutions ont été signées. Les détails avec vous, Kedin Kouté.
À Addis Abeba, les chefs d'État ainsi que le premier ministre éthiopien, président en exercice de l'organisation, ont livré leurs sentiments sur la Cour pénale internationale. Pour eux, je cite, « La Cour pénale internationale mène une sorte de chasse raciale en ne poursuivant que des Africains ». Et d'ajouter, « Lors de la création de la CPI, l'objectif était d'éviter toutes sortes d'impunités, mais désormais les processus a dégénéré en une sorte de chasse raciale ». Fin de citation. Une décision motivée par la volonté des dirigeants du continent présents à ces assises, de voir les poursuites engagées par la CPI contre le président et vice-président kényan pour crimes contre l'humanité être transférées à la justice kényane. La résolution a été votée à l'unanimité. Néanmoins, le Botswana a émis une réserve portant sur la procédure sans se prononcer sur le fond du dossier. Autre grande résolution, les États membres de l'organisation décident de créer sur le champ une force de réaction rapide. Mission de cette force, intervenir militairement en cas d'urgence sur le continent continent africain. Une mesure historique qui aura pour vocation de pallier les retards dans la constitution d'une force africaine en attente, attendue depuis une dizaine d'années, a déclaré l'Éthiopien Haïlé Mariam Dessalegn, président en exercice de l'Union africaine.
Merci Kevin Kouté. Professeur Nyabiru Ngou, vous êtes professeur ordinaire et doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Professeur, c'est assez curieux qu'à ce sommet, les chefs d'État africains aient fustigé la CPI à ce point, au point de dire que ça n'a été créé, ça devient une sorte de chasse raciale. Et même le président soudanais Omar el-Béchir, lui-même poursuivi par la CPI, dénonçait une autre forme de colonisation du continent. Il a dit, je cite, « En Afrique, il y a cette conviction que la Cour pénale internationale est le nouveau visage de la colonisation pour terroriser les leaders africains, professeur. »
Cette position de l'Union africaine me rend perplexe.
Pourquoi?
Parce que la CPI a été créée par un traité et que ce traité a été ratifié librement par les États. L'Union africaine n'est pas membre de la Cour pénale internationale, n'est pas signataire du statut de Rome, n'est pas partie à cette structure internationale. Mais surtout, ce qui me rend perplexe, c'est comme une certaine légèreté qui conduit les États africains à ignorer leur signature, à ignorer la nature des traités qui doivent toujours être observés. Et la querelle faite à la CPI me paraît tout à fait inopportune, voire non fondée. Pourquoi? Parce que le principe majeur du statut de Rome, qui détermine la compétence de la Cour pénale internationale, c'est la complémentarité. Cela veut dire quoi? Que le statut de Rome a pour finalité de mettre fin à l'impunité et demande en premier lieu aux États, aux systèmes nationaux, aux systèmes judiciaires nationaux d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils sont le premier à devoir s'acquitter de leurs responsabilités en poursuivant les crimes les plus graves, les crimes contre l'humanité. Or, si les États s'acquittaient de leurs obligations, jamais la CPI n'aurait un motif juridique ou quelconque pour intervenir. Je prends un petit exemple.
Très rapidement, professeur.
Oui, je cite le cas de Hissène Habré. Il a été, disons, poursuivi, non, entre guillemets, ses crimes ont été dénoncés pour avoir tué, je crois, autour de 20 000 personnes, il y a plus de 25 ans. Et jamais la justice africaine n'a été en mesure de le poursuivre. Et aujourd'hui, on conseille à la CPI de renoncer à toutes les poursuites pour les confier à une justice nationale.
Merci.
Qu'est-ce qu'elle a attendu?
Professeur Bagnacou, avant que je ne donne la parole au professeur Komitou Labor, il y a le président Salva Kiir, le président sud-soudanais, qui déclarait pratiquement avec ironie, il semble que cette chose, en parlant de la CPI, a été inventée pour les dirigeants africains, pour les humilier, professeur. Quel est votre point de vue?
Je dois dire avec presque en adoptant la position de professeur Nyabirungu, je suis moi-même des relations internationales. Un traité, on ne le corrige pas par une dénonciation simple. Un traité, si vous avez des modifications, vous avez des amendements, c'est à l'intérieur, il y a des mécanismes qui sont prévus dans les traités pour dire voilà dans tel cas. Donc il faut argumenter et pas aller dans la logique c'est une chasse raciale. Je voudrais bien dire que nous ne devons pas nous qualifier comme l'a dit le professeur Nyabirungu tout à l'heure par la légèreté. Ce sont des choses sérieuses, il faut les débattre avec beaucoup d'argumentaires et beaucoup de sérieux dans ces conférences. Moi je voudrais qu'en citant des cas particuliers on peut se dire il y a une chasse, mais il faut alors voir quels sont les crimes qui sont reprochés à ceux qui sont concernés. Et comment est-ce qu'on peut argumenter pour dire que non, ils doivent être poursuivis par nos propres juridictions, alors que nous connaissons comment est-ce que ça s'est passé.
Au point de demander que le dossier du président kényan, Uhuru Kenyatta, soit retiré de la CPI pour une juridiction kényane, professeur.
Il faut une argumentation. Il faut une argumentation, puisque le principe des traités, c'est que des crimes commis contre l'humanité doivent être sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Et donc, si on voudrait pas que la CPI s'occupe de ces cas, il faut que les juridictions nationales ou africaines puissent s'en occuper.
Il y a également, professeur, cette résolution concernant cette force africaine de réaction rapide, professeur. L'Union africaine en a-t-elle les moyens et l'efficacité?
Je dois dire avec beaucoup de modestie que la résolution en elle-même répond à une obligation. La protection, comme on dirait, la sécurité collective qui est au niveau de l'Union africaine, c'est une sécurité collective qui doit se traduire par des moyens. On a prévu la force africaine en attente qui devrait être mise en place en 2010, qui a été ramenée en 2015. Mais dans l'entretemps, je pense que la mise en place d'un mécanisme d'intervention qu'ils appellent un mécanisme, bon, dans les termes simples, des réactions, les deux sont la même chose. Je pense que là, c'est un mécanisme qui doit être mis en place pour répondre à la compétence d'une sécurité collective d'une organisation.
N'est-ce pas un vœu pieux et de plus, professeur?
Non, vous savez, c'est... Moi, je ne suis pas, j'avais dit ici dans une des émissions, j'avais dit qu'on ne fait pas une force neutre, une force internationale neutre. Ici, cela veut dire que lorsqu'on veut arriver à cette force rapide, des réactions rapides, ça doit être contre quoi, hein? Si nous disons que ça doit réagir, c'est pour sauvegarder l'intérêt national, qui est représenté dans tout processus démocratique par le pouvoir institutionnel.
Professeur Komi, tout d'abord, quel est votre point de vue par rapport à l'attitude des dirigeants africains face à la CPI et par rapport à cette force africaine de réaction rapide?
Tout d'abord, par rapport à la CPI, bon, je partage ce que vient de dire mes collègues. Cependant, moi, je me pose une question. Je pense que c'est un président africain, je ne sais plus lequel, peut-être l'Ougandais, qui disait que, l'ancien président américain, à savoir W. Bush, aussi devait se retrouver à la CPI et qui ne comprend pas pourquoi ce ne sont que pour la plupart du temps des pays sous-développés, notamment africains, qui se retrouvent à la CPI. Et ça, je pense que quelque part, il a raison et sur le plan politique. Mais maintenant, sur le plan juridique, c'est ce que développait tout à l'heure mon collègue. Et moi, je reste sur le plan politique. Je reste tout d'abord un peu stupéfait que, bon, on a des dirigeants africains sur le continent qui commettent des crimes odieux à l'égard de leur propre population et on ne dit rien. On ne dit rien. Et quand on a souscrit à des traités internationaux et quand on met ces traités internationaux en pratique, et là, bon, on se lève, on dit, ben écoutez, c'est pas juste, c'est du racisme, etc. Il faudra qu'un jour, nos dirigeants soient matures. Et quand mon collègue donnait l'exemple de Hissène Habré, je suis étonné que, depuis plus de 30 ans, 20 ans, 25 ans maintenant, que, bon, jusqu'à présent, Hissène Habré n'a jamais été jugé, malgré tout ce qu'il a fait. Bon, voilà pour ce qui me concerne pour la CPI. Maintenant, la force africaine, écoutez, pour moi personnellement, je dis, bon, on est dans l'utopie pure, hein, c'est un peu comme le fameux gouvernement continental qu'on allait mettre en place à un sommet de l'OIA à Accra et qui n'a pas eu lieu. Tout le monde savait que, bon, ça ne pourrait pas se mettre en place, mais certains jubilaient autour de ça, et bon, cette force africaine, je n'y crois pas, absolument pas. Et déjà, c'était programmé pour 2010, maintenant c'est reporté à 2015. Ben, on attendra 2020. Tous les 5 ans, on va nous remettre ça sur le plateau. Et ça signifie quoi? C'est que, bon, à partir du moment où les États africains ne seront pas en mesure de gérer des conflits internes, parce que la plupart des conflits en Afrique sont des conflits internes. C'est rarement des conflits entre États. Alors bon, ça signifie qu'il y a un problème de mal-gouvernance qui est posé à nos propres pays. Et maintenant, ils veulent mettre en place une force d'intervention rapide ou de réaction rapide. Mais dans tous les pays africains, je pense, il y a ce qu'ils appellent les forces d'intervention rapide.
Merci, professeur.
Il y a des forces d'intervention rapide et qu'ils interviennent pour régler les conflits internes, au moins à ce niveau-là.
Professeur Nyabirungu, il nous reste moins de 5 minutes. Il faut déjà conclure. Professeur, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer par rapport à l'Union africaine pour vous, en guise de conclusion?
Je pense que les chefs d'État devraient de moins en moins être porteurs de voix institutionnelles pour être plutôt porteurs de voix des peuples. Je ne comprends pas comment ils peuvent tenter de dire que le dossier de Uhuru doit être mis à la disposition de la justice kenyane, quand on sait que, je dirais, dans l'histoire de toute l'Afrique, malgré tous les crimes qui ont été commis, jamais un chef d'État en fonction n'a comparu devant sa propre justice. Ensuite, je voudrais que les Africains comprennent qu'il faut commencer par le commencement.
C'est-à-dire?
Il faut créer les conditions du développement. Il faut privilégier l'éducation et la santé. Il faut privilégier les infrastructures. Alors nous serons nombreux, en tant que peuples africains, à aspirer aux mêmes idéaux avec les mêmes moyens.
Merci, professeur Nyabirungu. Professeur Banyaku, pour vous, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut améliorer concernant l'Union africaine?
Je voudrais dire que ce qu'il faut améliorer, c'est le contenu des discours. Ça, c'est d'abord essentiel. Les Africains, ça, c'est de manière générale, ça relève de notre culture. Nous pensons rarement aux chiffres. Je pense que maintenant, là, on doit penser aux chiffres, c'est penser à la qualité, à la quantité. Et donc, jusqu'ici, les discours, comme toujours, nous voulons prier puisqu'il n'y a pas de chiffres, nous voulons danser puisqu'il n'y a pas de rythme chiffré. Mais maintenant, là, il faut mettre les conditions de développement en termes de chiffres. Quels sont les efforts quantifiés que nous pouvons fournir pour arriver à des résultats quantifiés aussi qualitatifs? Voilà ce que je peux demander.
Merci, professeur Banyaku. Professeur Komi, tout d'abord, pour vous, qu'est-ce qu'il faut améliorer à l'Union africaine?
Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Je pense que tout, on sait ce qu'il faut améliorer en Afrique. Et bon, moi personnellement, je pense que bon, l'éducation bien sûr, mais aussi insister beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'agriculture. On nous dit partout dans nos pays africains que le continent africain est un continent agricole, etc. et tout, mais aucun effort sensible n'a jamais été fait pour promouvoir vraiment une véritable agriculture sur notre continent. Je pense que au moins, si on laissait tomber tout et qu'on prenait en main l'éducation et l'agriculture, améliorer et aussi l'infrastructure, bien sûr. Donc, ces trois secteurs sont très, très importants. Et moi, bon, jusqu'à présent, bon, tout ce qui a été mis en place au niveau régional, je prends par exemple le cas de la CEDEAO. Vous avez là des traités qui sont signés, circulation des biens, des personnes, etc. Mais franchissez les frontières, vous allez voir ce qui se passe. Autrement dit, on est toujours dans le discours et l'action suit rarement. L'action suit rarement. Il faudra mettre aussi un tout petit peu en harmonie le discours et l'action, l'action et le discours. Je pense que bon, on a fait le diagnostic depuis la création de l'OUA. Et donc, cette émission-là, normalement, elle ne devait pas exister vraiment.
Merci.
Si ça existe, et je suis heureux que ça existe.
Merci, professeur.
Ça signifie que quelque part, il y a un problème qui se pose au niveau de notre continent. Et qu'on soit tout le temps
en
train de faire le bilan de l'UNIA.
Merci, professeur. C'est par vous que nous terminons cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au centre de recherche dénommé Les Afriques dans le monde, à Bordeaux en France. Vous travaillez sur les problèmes électoraux. Merci également au professeur Nyabirungu, au professeur Banyakulwapi. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.